Ce jour est dédié à la réfoie de tous les, à la guérison de tous les malades et tous les blessés de la guerre, entre autres à la réfoua de Bruno Gabriel Ben Daniel et de Rachel Bat Sarah Chaya. Bon, c'est un jour que je voulais faire depuis très longtemps sur les tefilines. Rabbi Chaim Palachi, c'était un des grands sages qui vivait en Turquie il y a un siècle et demi, deux siècles. Il a dit que la raison pour laquelle, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le machar ne vient pas, d'accord. Chacun avec... ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons. Si une des raisons était réglée, un des problèmes était réglé, le machar serait venu. Il y a plusieurs problèmes. Alors, Rabbi Chaim Palachi, il a dit, c'est parce que beaucoup de juifs ne mettent pas des tefilines qui soient cachères, ou même s'ils ont déjà des tefilines qui sont cachères, ils ne savent pas comment les mettre. On va faire un chiour qui ne sera pas, effectivement, les lois des tefilines, c'est une chose qui est extrêmement vaste, on ne pourra pas tout toucher, toucher les choses essentielles, les problèmes essentiels qu'il y a. On va parler d'abord un peu de ce que c'est qu'un tefiline cachère, qu'est-ce que c'est qu'un tefiline, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes habituels des tefilines, et après on parlera comment les mettre, parce que déjà pour un tefiline qui est cachère, c'est difficile. Sur le marché, on peut dire facilement la moitié des tefilines ne sont pas cachères. On peut dire. En tout cas, très très limite. Ensuite, ceux qui déjà ont acheté, ont dépensé de la somme et ont eu la chance de tomber sur un tefiline qui est cachère, alors encore faut-il qu'ils le mettent comme il faut. Beaucoup de gens, surtout en France, de ce que j'ai vu, aux yeux dans les synagogues, je peux dire facilement, un tiers des personnes ne mettent pas les tefilines comme il faut. Donc j'espère que vraiment ce chiour-là vous sera bénéfique. Alors d'abord, comment est fait le tefiline? Le tefiline, il y a deux sortes de tefiline. Le tefiline du bras, le tefiline de la tête. Ukshartam ot eladecha, tu les attacheras à ton bras. Et là, on apprend qu'il y a un tefiline de bras. Vayulotafot benanecha, tu les mettras entre tes yeux. On apprend que c'est l'endroit entre les yeux, mais sur l'endroit où il y a les cheveux, comme on va en parler ultérieurement. Donc deux tefilines. Ils sont faits différemment. Le tefiline du bras... Alors comment on fait un tefilin? Voici un tefilin qui est défait, qui a été ouvert. Il y a en fait, on prend une peau de... On va voir aussi qu'il y a des peaux de bovins, donc de bœufs, et des peaux de ce qu'on appelle bémadaka, d'un animal qui est fin. C'est quoi? Brebis ou chèvre. Nous déconseillons absolument les tefilins qui sont faits avec une peau de bémadaka, d'animal... Daka, littéralement fin, d'accord, donc de chèvre et de brebis, parce que le tefilin doit être rigoureusement carré. Et lorsque c'est fait avec, par exemple, ce genre de tefilin, qui est fait avec Bema Daka, avec les peaux fines, ça bouge, c'est la peau, c'est pas une chose qui est... C'est une chose qui travaille avec le temps, avec l'humidité. Au bout d'un moment, on a un tefilin qui n'est pas cachère. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un tefilin avec la peau fine ou la peau épaisse? Voici le tefilin comme il est. D'ailleurs, tu peux faire un zoom, ça fait des zooms, la caméra. Alors, ça, c'est le tefilin. Ça, ce qu'on appelle ici l'ama abarta, l'endroit dans lequel passe la lanière. Ici, on peut déceler, d'après l'épaisseur de la peau ici, s'il s'agit ici d'un tefilin qui est fait avec une peau qui est fine ou une peau qui est épaisse. Je vais le comparer. Regardez ici avec, voilà, un tefilin ici, qui est fait avec une peau épaisse. Ça n'a rien à voir. L'épaisseur ici, elle fait bien presque un centimètre, hein, 7 mm, 8 mm. Ça a été gratté parce qu'elle est très épaisse. C'est compact, ça pèse beaucoup plus lourd, ça coûte plus cher aussi, mais c'est une bonne qualité. C'est pas le taco, c'est une route qui tient la route, une voiture qui tient la route. Les tefilines, on achète Bezrat Hashem une fois dans sa vie, ou deux fois dans sa vie. Ça vaut la peine d'investir un peu plus et avoir une chose qui est une sorte de tefiline, elle est marquée 8 fois dans la Torah. C'est marqué dans les poskim, dans les décisionnaires, quand on fait la mitzvah de tefilin, on fait 8 mitzvot. Si on ne la fait pas, on a raté 8 mitzvot. C'est peut-être la mitzvah la plus... Le Roche écrit, si je me souviens bien, le Roche écrit, il n'y a pas de mitzvah plus grave que celle-là au niveau des mitzvot positives. D'accord? Tu as le shofar, tu as la matzah, tu as le lulav, tu as la souka. Tefilin, c'est une chose quotidienne, ça vaut la peine d'investir. Grosso modo, faut que le prix minimal, moi je ne vends pas de tefilin lorsqu'on me demande d'acheter pour des gens, ici en Israël, à moins de $500 pièce. $500 la paire de tefilin. En France, ça coûte le double. Donc si on vous propose un tefilin qui fait moins que cela, il faut se méfier, c'est déjà qualité limite. Limite. Et si le tefilin n'est pas cachère, quand on le met, on fait une bracha, on fait une bracha le batala, une bénédiction en vain. ce qui est le troisième des 10 commandements, c'est extrêmement grave de transgresser le troisième des 10 commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Donc le tefillin, il peut être, comme j'ai dit, fait de peau grasse ou de peau fine. On prendra de préférence de peau grasse. Là, j'en ai pris un de peau fine qui est déjà vidé pour montrer un peu comment c'est fait. Alors celui de du bras, donc on prend le morceau de peau. Quand il est mouillé, encore humide, on met dedans un morceau de fer pour faire une sorte de trou comme ça. Dans, tu as ta peau et tout au coup dedans, tu as comme ça une sorte de monticule. Après, on prend le tefillin, on le met dans une presse qui va donner une forme plus ou moins carrée. Et après, on commence à tailler de tous les côtés pour avoir une forme qui soit complètement carrée. Après, il y a la partie de la peau qui dépasse, on la reprend et on la referme comme cela. Lorsqu'on aura un tefillin fait de peau fine, il y aura un problème que si je referme ici, ça sera trop fin, donc on va rajouter. Vous voyez qu'on a rajouté ici tout un morceau de peau. On rajoute un morceau de peau supplémentaire pour que ça ait une forme carrée. Le tefillin du bras, il est fait donc avec un seul gros trou dans lequel on mettra les parchemins. Le parchemin de bras, comment ça se présente comme ça. Voici ici un petit, d'accord. On voit qu'il y a quatre parachiot qui sont, pour le tefillin, il y a deux sortes de tefillin de Rashi, tefillin de Rabbeinu Tam, on parlera ultérieurement. Rashi, c'est le paracha de Kadesh, Vehaya Keviyacha, Shema Israël, Vayam Shamoa. Dans cet ordre-là. Rabbeinu Tam, c'est un ordre différent. Donc, le sofer, il faut vérifier que c'est écrit comme il se doit. S'il y a une lettre qui n'est pas conforme à la halakha, le tefillin n'est pas valable. S'il y a même une lettre, des fois, qui a été corrigée à rebours, après, je ne vois rien. Je vois seulement que c'était corrigé. Si c'était corrigé après qu'on ait fini le tefillin, après qu'on ait écrit le mot, on revient en arrière, ce n'est pas valable non plus. Donc il faut savoir qu'il faut être certain que celui qui a écrit, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui ne va pas... C'est beaucoup de travail. Hein. Ça coûte entre 200, 300, 400 dollars une paire de tefillin, rien que l'écriture, rien que le parchemin sans le boîtier. Quand un sofer, il a écrit pendant une ou deux semaines sa parnassa, son gagne-pain du mois, et tout coup, hop, c'est une erreur, il faut qu'il ait beaucoup de crainte de Dieu pour ne pas faire une petite correction et se dire que ça va. Ou même, il a la crainte de Dieu, mais il se trompe au niveau de la halakha, elle est très compliquée. Il faut être un tamin chacham qui connaît bien la halakha, sinon on a des tefillines qui ne sont pas cachères et personne ne peut déceler cela. Par exemple, si avant d'écrire le nom de Dieu, il faut penser, j'écris maintenant le nom de Dieu pour la sainteté du nom de Dieu. S'il n'a pas dit ça, ce n'est pas valable. Tu ne vois rien, tu ne peux pas voir ça, ce n'est pas marqué. J'ai écrit avec sainteté ou je n'ai pas écrit, d'accord. Donc il faut absolument qu'il soit, d'abord qu'il ait la crainte de Dieu, le sofer, le scribe. Deuxièmement, qu'il connaisse bien la halakha. Moi, je déconseille à mes élèves qui me demandent d'étudier avant qu'il soit tamin chacham. Quelqu'un qui ne sait pas encore bien étudier la Torah, il étudie le Mishnah Berurah là-dessus. Une fois, mon chavruta, mon copain d'études, c'est un grand spécialiste de sofrut, d'écriture de scribe, et donnait des cours à des scribes. Il m'a montré une fois, il m'a amené un jour, tiens, regarde, un livre qui a été sorti pour enseigner aux gens comment écrire les tefillines. Il m'a montré dans une page, 18 erreurs. Le type qui a écrit le bouquin, il n'a même pas compris la halakha. Donc c'est très facile, très, très facile de se tromper. Et une fois, il me raconte aussi qu'il y avait un scribe qui est venu avec lui, avec sa Volvo, un scribe qui gagne bien sa vie, et il lui a montré comme ça les tefillines. Il lui dit, mais ça et ça et ça. Le scribe ne savait même pas de quoi il parlait. Mon ravouda lui dit, mais il y a des problèmes. Le scribe ne savait même pas que ça existait, c'est halakhot. Donc s'il n'y a pas un scribe qui connaît bien la halakha, alors, il y a un très grand danger qu'on a une très belle paracha qui coûte très cher, mais qui ne vaut rien du tout. Et tous les matins, on fait la bracha en vain, et on monte après 70 ans, après 120 ans, Olam Haba, on dit, mon vieux, tu n'as pas mis le tefillin de ta vie. Ah, une fois, oui, j'ai emprunté un tefillin parce que le mien était en vérification. Là, tu l'as mis, d'accord. C'est très, très dommage. Donc, faire attention, t'ajouter un tefillin de quelqu'un qui sait bien écrire, Tamir Chacham, qui est la crainte de Dieu, et ça coûte. Moins de 500 dollars en Israël, oublié. Nous, on ne s'en occupe pas parce que toujours il y aura des problèmes. Plus, on espère que ça va. On espère que ça va. D'accord, on ne peut jamais être certain de rien. Vers Tachem, on fait de notre mieux et que Dieu voit qu'on fait de notre mieux et nous fasse tomber sur une paire de films qui soit vraiment cachère. Donc, on mettra le petit rond comme ça, dedans, à l'intérieur. Hop, et ça fait le tefillin de bras. Pardon. Ça, c'est le tefillin de bras. OK ? Voilà. Il y a beaucoup de détails là-dedans, je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les détails. Le tefillin de tête, comment ça se passe? Alors, on a la même chose, simplement qu'on aura quatre, tu refais un zoom s'il te plaît, quatre compartiments dedans. On mettra les mêmes parachiotes, les mêmes morceaux de parchemin, dans le même ordre, mais séparés cette fois. Alors, on aura des petits des petits morceaux comme ça. Voilà, ici on a une paracha. D'accord, elle est pliée. On le plie ainsi. Et on l'enfile. Faire attention, des fois, il plie trop fort. Quand on plie trop fort, ça casse une lettre. C'est pas valable. Après quoi, on prend un morceau de parchemin, on entoure encore avec un parchemin ce parchemin. Un parchemin vide, on entoure le parchemin sur lequel est écrit. Et avec un cheveu de crin, de bœuf ou de vache, d'accord, on entoure comme cela. Et on fait sortir les crins, les morceaux de crin de cheveux qui entourent les quatre parchemins de la tête. On le fait sortir ici. Vous voyez, ça rappelle le veau d'or, comme c'est marqué dans le Zohar. Ces cheveux-là, ici, sur le tefilin, ça sort entre le premier et le deuxième boîtier. Il faut absolument qu'il y ait quelques cheveux qui sortent. Donc, c'est déjà, on arrive au tefilin de tête. Parlons un peu comment c'est fait le tefilin de tête. Pardon ? S'il n'y a pas, ce n'est pas valable, effectivement. Maintenant, le tefilin de tête, c'est comme celui du bras. Donc, on prend un morceau de peau, plane. On va prendre quatre morceaux de fer qu'on va enfoncer comme ça dans la peau plane pour en faire une sorte de peau avec quatre proéminences. Après, on va rassembler cela avec une presse hydraulique. On rassemble ensemble les quatre proéminences et de nouveau, on va tailler pour arriver à cette forme carrée. Donc, comprenez qu'ici, il y a en fait la peau, elle fait quatre maisons. Et il faut coller ces maisons. Le mieux, c'est pas de les coller du tout. Pourquoi ? Parce que comment on fait de la colle ? La colle, elle fait ratitsa, elle va faire un écran. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une colle qui est mélangée avec de la peau. Mais si on prend la colle qui est mélangée avec la peau et on en met partout, alors la peau, colle mélangée à la peau, c'est un statut de peau. Ça fait que maintenant, j'aurai plus quatre maisons, j'aurai qu'une seule maison. Une seule maison avec quatre trous dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Si on met pas les tefilines très chères, il n'y a pas de colle du tout dedans. Ça prend beaucoup de temps, ils font sécher la peau, etc. Et ça tient tout seul. Et encore des fois, après, ping, un beau jour, ça s'ouvre comme ça. Tu viens un peu au soleil, il y a un peu, il faut faire attention. Les tefilines ne supportent pas les changements de température. Chaud, froid, humidité. Quelqu'un, il va au mikvé, ou bien il sort de la douche, et après, il met ses tefilines. Tu n'as rien de pire pour les tefilines que de l'eau. D'accord ? L'eau, ça fait gonfler les tefilines. Ça fait travailler les gens qui transpirent beaucoup en été, c'est un problème. Après quelques années, ils ont des tefilines qui gondolent complètement. Et ting, ils risquent de s'ouvrir. Il y en a pour parier à cela, ils mettent beaucoup de colle. S'il y a trop de colle, ce n'est pas bien. Le mieux, c'est mettre un peu de colle. Après, quand ils ferment, on autorise qu'à un tiers environ, des fois jusqu'à la moitié, la colle qui monte. Si c'est plus, ça devient un problème. Et il est impératif qu'on puisse voir que c'est quatre maisons. Donc, il y a ici un trait qui sépare les quatre maisons. Dans beaucoup de films, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent pour que ce soit joli. Ils veulent que ce soit symétrique. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, les maisons ne sont pas symétriques. Tu as un morceau de peau qui était plus fin, l'autre plus épais, donc les maisons ne sont pas symétriques, mais c'est pas joli, ça ne sent pas très bien, parce que les gens aiment que ce soit symétrique. Alors ils mettent une sorte de mortier dessus, et après ils mettent des traits symétriques. C'est pas valable. Si le trait n'est pas à l'endroit où il y a vraiment la séparation entre les quatre maisons, c'est pas valable. Comment est-ce qu'on peut déceler cela ? Si tu vois que des fois ils ne font pas très attention, ils mettent le trait qu'ils font donc artificiellement, ils font un trait comme ça, parce qu'après un trait comme ça, tu peux voir au niveau de la jonction, des fois c'est pas tout à fait adéquat, ça prouve que c'est pas le vrai endroit, ça prouve que ça a été fait après coup, et c'est pas l'endroit où il y a la vraie scission entre les quatre bâtiments qui forment le bâtiment du tefilin de tête. C'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est très bien. Pour le demander aujourd'hui, c'est beaucoup rentré dans le standard des tefilines. C'est bien pour montrer qu'effectivement les tefilines sont séparées en quatre. Il y a un fil qui passe entre les quatre maisons. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de faire un gros zoom ici. Quelqu'un a peut-être un stylo que je puisse montrer avec pratiquement 10 secondes. Ici, vous voyez, il y a un fil. 1, 2, 3. Il y a un fil qui passe. Les trous, même sont extérieurs, c'est bien qu'on les voit. Des fois, on ne voit pas. Le fil y est, mais on ne le voit pas. C'est un hidour, c'est une chose bien qu'on puisse voir le fil à l'extérieur. Et là aussi, il ressort ici. 1, 2, 3. Tu arrives à voir, mon cher caméraman ? Ok, ici, il y a trois fils qui ressortent. 1, 2, 3.
Alors là, par exemple, ça n'a que deux trous.
Non, c'est pas les... je ne parle pas des trous de la couture. Regardez bien. Il y a une couture carrée qui entoure le tefilin. Mais à côté, de cette couture carrée sortent des fils et rentrent entre. À la base, entre les bâtiments, vous voulez voir, faites passer. Attention simplement de ne pas le faire tomber, c'est un tout beau. Hein ? Alors, ou il n'y en a pas, ou il y en a qui sont intérieurs. Alors il faut demander, il faut simplement demander, quand tu achètes, on appelle chout ben abatim, le fil entre les bâtiments. Le gros problème numéro 1 dans les tefilin, messieurs, il faut que le tefilin soit absolument, complètement carré. Où ? Partout. Là, il faut qu'il y ait un carré parfait. Là, on peut avoir que ce soit rectangulaire plus haut, pas tout à fait carré, mais il faut que le carré parfait que j'ai ici, il soit dans tous les niveaux du tefilin. Donc, je peux avoir un tefilin, par exemple, où le carré, il montre d'un carré, mais en pyramide, d'accord ? Où c'est comme ça, où c'est comme ça. Où le carré, il est par rapport à la base, il est un peu tordu. Parce qu'il faut que ça soit, il faut que la même, on ait la même hauteur ici, même hauteur ici. Même largeur ici, même largeur ici. Carré, parfait. La seule chose qu'on peut autoriser, c'est que ça soit un peu triangulaire vers le haut, comme ça. Mais il faut que ce triangle soit parfait. C'est-à-dire que chaque facette doit être idem à la facette d'à côté. Et en haut, un carré parfait. Si ce n'est pas parfait, c'est pas soul. C'est pas valable. Combien on autorise ? On autorise entre 1 et 2%, 1 et 2% de la distance qu'on considère de déviation, d'inexactitude. Ça veut dire qu'ici, j'ai 4 cm entre 0,4 mm et 0,8 mm. 1 mm de déviation, tu prends avec pas une règle, d'accord, tu as des systèmes, comment on appelle ça ? Un pied à coulisse, tu vérifies comme c'est un pied à coulisse, mais avec des mesures, d'accord. Tu regardes, tac, 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 partout, y compris ici, messieurs. Là aussi, il faut que ce soit un rectangle parfait. Il ne faut pas que ça soit rond ici, par exemple. Si c'est rond, ce n'est pas parfait. Il faut que ce soit carré. Et le danger numéro 1 dans le film, c'est quoi? C'est la partie ici. La partie ici, d'habitude, elle est délaissée. Ici, le carré n'est pas parfait. Il faut aussi dans là, c'est-à-dire que j'ai un carré ici, 1, 2, 3. Maintenant, la quatrième partie, elle n'est pas entière. Parce qu'il y a la mabarta, la partie qui sort où il y aurait la lanière. Mais néanmoins, ici, la petite cisaille qui rentre et l'autre cisaille qui rentre ici en bas, elle doit être complètement carrée. Des fois, c'est tordu comme ça. Ça sort comme ça. Ou c'est approximatif. Ou à l'endroit où passe la lanière, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, la lanière, au bout d'un moment, elle bouffe un peu de la peau, ça use, et on n'a plus ici une ligne droite. Il faut absolument que ce soit une ligne droite ici, là. Oui. Alors, on autorise. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment aussi? Ça commence à se raboter. Alors, il faut faire attention. On autorise, comme je dis, jusqu'à 2%. Maximum 2%. Tu mesures, tu vois. Maintenant, si on voit à l'œil nu que ce n'est pas carré, c'est plus valable. Hein? Tiens, de voir. C'est un problème. Regardez, c'est un cas d'un problème, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est pas saoul, mais c'est un problème. Vous voyez que ce n'est pas complètement droit ici? Là. Là.
La fissure, ça va, c'est pas un problème.
La fissure, c'est pas un problème tant que ça ne casse pas trop le carré. Ouais, elle commence à gondoler, là. Il faut le redonner un peu à retravailler.
On peut changer que le boîtier. C'est du plus.
Ouais. Non, le plus, ça va, c'est caché, il n'y a pas de problème dans le plus. Simplement, tu vois ici, au niveau de ton carré, c'est plus très bien. Il y a un problème, ça n'a pas été refermé comme il faut bien. Oui. Ouais. Là aussi, on voit que c'est pas tout à fait carré. D'accord. C'est pas très bien. Donc, il faut arranger ces choses-là. Ok. Pardon. Alors, il faut que le tefilin soit noir. Alors, Halakha Moshe Mishinaï, que les tefilin et les retsuot, les lanières soient noires. Donc, on peut les colorier avec de l'encre. Il y a de l'encre qui est sur le marché. Ici, vous avez une encre qui est cachère. Une encre qui n'est pas faite avec des vers de terre ou des choses comme ça, donc elle est ici sur le marché, et il est impératif, il faut faire très attention, avant de faire quoi que ce soit de travail sur les tefilin ou sur les lanières, de dire avant qu'on va colorier, après on va apprendre à faire les nœuds, pas les shem et sa tefilin, ça ne vaut rien du tout ce que vous venez de dire, les shem kdushat tefilin, pour la sainteté des tefilin. Pour les tzitzit, on dit les shem mitzvat tzitzit. Il y a tashmiché mitzvah, tashmiché kdusha. Les ustensiles de mitzvah, ce sont les ustensiles de kdusha. Les tzitzit, c'est un ustensile de mitzvah. Le tefilin, c'est comme un sefer Torah, c'est un ustensile de kdusha, c'est la sainteté en elle-même, d'accord? C'est une chose qui est extrêmement sainte, et si on n'a pas dit la petite phrase que je viens de dire, l'eshem kdushat tefilin, pour la sainteté des tefilin, alors l'action qu'on a faite, elle est très très Normalement, on devrait effacer la couleur noire, et c'est très compliqué. Donc, ne jamais oublier, si on a fait un nœud, il faut défaire le nœud et le refaire en disant « L'Hashem Kudushak Tfilin ». Tfilin en français, oui.
Et s'il ne comprend pas et qu'il dit quand même on est voit,
c'est mieux de comprendre. Maintenant, il n'y a pas qu'au niveau de la peau que ça doit être carré. Il y a un gros problème aussi, c'est au niveau de la couture. Vous avez une couture ici en bas, qu'on retrouve en haut, qui raccroche les deux parties du tefillin, d'accord, pour que ça soit collé ici comme ça. On ne colle pas avec de la colle, on fait une couture. Maintenant, il est impératif que cette couture soit complètement carrée. Dans les bons tefillin, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une cisaille carrée dans laquelle ils mettent le morceau de guide, c'est un morceau de tendon séché, avec lequel on fait la couture. Le morceau de tendon, il passe, il ne peut pas quitter la cisaille, donc c'est complètement carré. Dans cette tefillin-là, vous voyez qu'il n'y a pas dedans de cisaille. Alors le tefillin, la couture, des fois, elle bouge un peu. Si ce n'est pas complètement carré, ce n'est pas cachère. Et c'est très courant. Eux, ils ont les employés, les ouvriers qui font cette tefillin, n'ont pas le temps. Alors ils prennent comme ça la perceuse, alors ils se font peut-être le carré bien en haut, mais des fois la perceuse, elle va un peu de côté. Et là en bas, c'est pas perpendiculaire en haut. Donc on n'a plus un carré, ou le contraire. T'as en bas, c'est carré, mais en haut, c'est pas carré. Il faut bien vérifier. Vous voyez, donc, très souvent dans la tefillin, vous verrez, regardez comme ça et on voit que tout de suite il y a un côté qui passe de côté. Je suis convaincu, si vous regardez bien, il y aura sûrement une tefillin là qui ne sera pas très bien. C'est là une chose qui est courante. Carré parfait. De nouveau, on autorise de 1 à 2 mm de déviation. Il y a aussi un problème. Des fois, ils font les trous. Ouais. Il faudrait vérifier. Ça n'a pas l'air carré des masses, hein, on se rend compte. Maintenant, un autre problème, regardez ici. Donc on a le carré en haut, n'est-ce pas? Il faut que ce soit un carré parfait. Maintenant, il y a un problème dans un carré, c'est l'angle. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils font le trou trop gros ici, ce point qui a l'angle du carré, il y a un fil qui va rentrer, je le fais maintenant en plus gros, je fais ici le trou de la couture, il y a un fil qui rentre. Il y a un autre fil qui rentre, vous voyez? Mais en fait, il n'y aura pas d'angle. Ce carré n'a pas d'angle, parce que les fils ne se touchent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand le trou il est gros, alors on met un fil là, on met un autre fil là, et ne se touche pas, donc le carré n'est pas parfait, et c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Il faut que la personne qui fait le tefillin, il prend les deux fils dedans à l'intérieur et il les tresse. Il tourne comme ça un peu, comme ça il se touche. Si ce n'est pas fait, le tefillin n'est pas kasher. On ne demande pas, je veux dire, on autorise une certaine déviation. La halakha, comme ça, elle dit, il ne faut pas que ça se voie à l'œil nu. Si quelqu'un il regarde comme ça, il voit que ce n'est pas carré, ça ne va pas. Maintenant, c'est combien l'œil nu? Alors on dit de 1 à 2%, ça dépend des poskim. Il y en a qui disent 1%, ça va plus. Ça va plus. Il y en a qui donnent jusqu'à 2% de déviation. Un tefillin qui sont extrêmement petits, c'est beaucoup plus précis. Un tefillin petit, tu n'auras que des fois 2 cm de large pour le tefillin. Là, on autorise donc que 0,2 mm à 0,4 mm de déviation, ce qui est très très peu. Ok. Les lanières doivent être noires partout. Il ne faut pas qu'il y ait s'il y a des taches, des endroits qui sont commence à blanchir ou la couleur parle, il faut prendre la couleur et dire Hashem Kudushat Tfilin et colorier. Dessous, ça peut ne pas être noir, l'habitude est que ce ne soit pas noir. D'après la Kabbalah, ceux qui veulent, c'est bien aussi de noircir l'envers aussi. Mais peu de gens le font. Pardon? Ça reste cachère s'il n'y a pas trop. D'accord? Maintenant, quelle est la largeur? Le problème, c'est la largeur de cette lanière. A priori, il faut qu'il y ait 11 mm. A posteriori, on aurait jusqu'à 9 mm de largeur. Moins que 9, c'est plus valable. Le danger est l'endroit où on fait le nœud des tefillines. Vu que tous les jours, on tire, la peau, elle travaille. Au bout d'un moment, ça s'amincit. Et le tefillin a déjà 20 ans, suite à bar mitzvah, le type a 70 ans, il met toujours ses tefillines. La lanière fait moins de 9 mm, c'est pas valable. Il y a une largeur minimale qui fait 9 mm. Si possible, 11 mm, a posteriori, on aurait jusqu'à 9 mm. On continue la construction des tefillines. Dans les tefillines, on aura 3 lettres. Ça, c'est le tien. Ouais, rendez, je ne veux pas qu'il y ait trop de tefillines ici qui se baladent. Voilà. On va prendre celui-là. Il y a trois lettres. Trois lettres qui forment le nom de Dieu, Shin, et puis Daled, et puis Yud. Le Shin, il est ici, des deux côtés du tefilin de la tête. Un avec quatre branches, l'autre avec trois branches, ça fait sept en tout. Le Daled, il est là, vous voyez un Daled, le nœud de derrière. Et le Yud, il est sur le tefilin du bras. Ici, vous voyez la forme Yud. C'est un Yud ici. Yud. Il faut faire attention que ces trois lettres soient faites comme il se doit. Commençons par le Shin. Comment est-ce qu'on fait le Shin? Le Shin, on va prendre une sorte de, comment on appelle ça, comme pour des pièces, une imprimante, d'accord, que je joue avec de la force. Et dans cette imprimante, tu as en relief gravé le Shin. Alors tu enfonces très fort ça, avec une force hydraulique, tac, sur la peau, qu'est-ce qu'il y a? Le Shin ressort. Et il est écrit, n'est-ce pas? Il y a un problème là-dessus. Pourquoi? Le Shin doit être écrit. Or, dans les lois d'écriture des tefilin, par exemple, quand j'écris maintenant sur un tefilin, quelqu'un avec moi, je dois écrire maintenant, prenons un nom qui est marqué dans le tefilin, on va dire, Vayu le totafot. Vayu le totafot. Totafot, il y a un vav. Vav, taf à la fin, le vav. C'est moi, je voulais un yud, d'accord. Vayu ben anecha, entre tes yeux. Anecha, il y a la lettre yud. Maintenant, le sofer, il a fait le yud. Je vous fais le yud comme ça. Comme ça, il est un yud, d'accord. Pourtant, lui, il a fait un peu plus. C'est encore un yud, ça? Limite, ça devient un vav. Je rajoute encore un peu, c'est déjà un vav. Lui, il a fait un vav. Il a rajouté un peu trop d'encre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige, d'accord. Il enlève ça. Il gratte l'encre. De nouveau, il a un yud. C'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on doit écrire la lettre. En toi, on ne doit pas l'obtenir par le fait d'effacer. Là, j'ai obtenu le yud en effaçant. Ce n'est pas valable. Il faut effacer tout et réécrire. On appelle cela chak tuchot. Tout le yud. S'il a continué et après il a corrigé comme ça, il doit tout réécrire. Des fois, tu vois dans le tefilin toute une partie qui a été grattée. C'est qu'il s'est rendu compte d'une erreur qu'il y avait 3-4 mots auparavant. Et il a dû tout gratter. Des fois, il n'a pas le courage, il jette tout, il met la knisa et il recommence tout depuis le début.
Sauf si c'est la dernière.
Comme si c'est la dernière lettre, ça va, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y a une loi de Kessidran. Il faut que les lettres soient écrites, comme j'ai dit, dans l'ordre. Alors, il est interdit de corriger une lettre en effaçant, on doit la corriger en l'écrivant. Or, comment j'ai fait maintenant mon Shin ici? C'est valable aussi pour le Shin ici. Quand j'ai enfoncé la peau et j'ai laissé ressortir le Shin, je n'ai pas écrit le Shin. J'ai enfoncé l'autour du Shin. Quelqu'un suit ce que je veux dire? Je n'ai pas écrit. Écrire, c'est quoi dans le cas ici? Je dois, avec une pincette, aller sortir la peau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. On va enfoncer le moule, très bien. Ça fait ressortir maintenant le Shin que je veux. Après, qu'est-ce que je fais? Je le délimite bien, je cisaille un peu autour. Après, je le réenfonce dans la peau, que ce soit tout plat. Et après, avec la pincette, je ressors de nouveau. Avec la pincette, je ressors le Shin. Quand je sors avec la pincette, ça s'appelle écrire. Maintenant, ça, on ne saura jamais. Ça, c'est le type, l'ouvrier, dans son atelier. S'il veut faire comme il se doit, il fait comme je vous ai dit. Sinon, il fait un bon coup, boum, il enfonce. Et il vend son tefilin comme ça. Et il n'est pas valable. Le Shin, il est là. Il n'est pas valable parce qu'il a été fait en chaktuchot, en effacement, et pas en écriture. Donc, de nouveau, il faut savoir qu'un chef de c'est quelqu'un qui est cachère. Vous me direz, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui font ça? Là, pas du gain. Il y a des gens malhonnêtes partout. Dans le monde des tefilines, ça existe aussi beaucoup. Peu à peu, maintenant, il y a une connaissance des tefilines et le marché devient, les gens sont au courant et demandent. Donc, peu à peu, on arrive à éliminer les faux. Alors, qu'est-ce qu'ils font les faux? Ils vendent en France. C'est ça que là-bas, les gens sont des ignorants. D'accord? Maintenant, nous sommes en train de mettre au courant les Français pour qu'ils achètent, ils arrêtent d'acheter des faux. Ça, c'est le Shin. Le Dalet, on va l'étudier après, comment on le fait, comment on défaire le nœud. Le Yud. Le Yud, c'est un gros problème. D'abord, des fois, qu'est-ce qui se passe? La lanière du Yud, ici, elle est trop longue. C'est plus un Yud, c'est un Vav. C'est pas valable.
Quelle lanière?
Ici. Le petit bout qui sort, là, vous voyez, c'est un Yud. Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est un Yud, la lettre Yud. Elle doit être Yud. Dans beaucoup de tefilines, il se défait. Il s'est défait. C'est foutu. On n'a pas fait la mitzvah. Si le yud ici, il n'existe pas, on n'a pas fait la mitzvah du tefilin du bras. Et ça arrive très souvent dans la synagogue, je vois quelqu'un, oui, ça fait quelques mois déjà que je dois aller le refaire faire. Tu n'as pas fait la vie ça, mon vieux. C'est très dommage. Donc vérifiez. Des fois, il est trop long. Ce n'est plus un yud, c'est un vav. Là, on peut le couper. On dit les chambres qu'il soit tuline, on le coupe. Il n'y a pas de problème de chaktuchot ici. C'est aussi fait en effacement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe très souvent avec le moiton de filine? Le yud n'est pas, le nœud n'est pas solide, il se défait avec le temps. Et le pied du yud, il rentre à l'intérieur. Je vais vous montrer l'expérience, regardez comme ça, je vais le tirer un peu. Il rentre un peu, au point où on ne le voit plus. Vous voyez comme ça? Vous voyez maintenant, il n'y a plus de pied au yud? C'est pas valable. Pas valable. Il faut dire le shem kdushat tfilin et le ressortir. Le shem kdushat tfilin. C'est bon? De temps en temps, il faut vérifier que le yud est à sa place comme il se doit bien. Sinon, ce n'est pas valable. S'il sort un tout petit peu un millimètre, c'est valable. Au niveau de la lacha du yud, si on a un pied de yud qui sort un millimètre, c'est valable aussi. Dans l'écriture, donc aussi dans le nœud. Maintenant, ce yud-là, il est impératif qu'il soit collé à la maison du tfilin. Vous voyez, ça c'est décollé. Ça, c'est collé. C'est pour ça que dans le petit capuchon qu'il y a, ils mettent un capuchon pour pas que, avec le temps, ça s'érode et ça devient le carré devient rond. Alors, regardez que dans le petit capuchon, ici, il y a une petite ouverture. Pourquoi? Pas pour faire joli, c'est pour que le yud, la lanière, puisse toucher le bâtiment. Si possible, même quand le yud, il est dans la boîte, pas sur nous, c'est bien que le yud touche le bâtiment. Donc, quand on va attacher le tefilin, on va, avec la lanière, attacher aussi le yud au bâtiment. C'est bien que ça ne soit jamais séparé de la, ça s'appelle de la ktitsa, du bâtiment lui-même. Il y en a même qui attachent avec un petit morceau de guide, de tendon, en haut. Il faut faire attention, pas que le tendon ne soit pas en bas. S'il passe en bas, ça fait ktitsa, ça fait écran. On verra qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran en notre filine et notre peau. Maintenant, ce yud-là, en tout cas, dans la maison, c'est bien qu'il soit collé au bâtiment. Quand on le porte, c'est impératif qu'il soit collé au bâtiment. On verra qu'on va le coller avec la lanière lui-même, on va montrer cela. Mais attention que le yud existe bien comme il se doit. On va parler maintenant de l'écran, c'est important. Il faut, quand on met le tefilin de tête et le tefilin du bras, il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le tefilin et notre corps. Si quelqu'un, il revient de son mariage, d'accord, on lui a mis un peu, ou il a fait le tikkun chatzot, on lui a mis un peu de cendre ici sur le front, comme c'est bien de faire, il met son tefilin le matin, ce n'est pas valable. Il a été à la mer, il y a un peu de sable, ce n'est pas valable. La gélatine, le gel. Alors, je pense que le gel, je pense que ça va. Mais si maintenant il s'est nettoyé, il s'est lavé les cheveux et il n'y a plus de gel, il n'y a que des saletés de gel, là ça ne va plus. Parce que ça dérange, c'est une chose qui le dérange, ça fait ratit ça. D'accord? Au niveau du corps aussi, il faut qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas trop de crasse, d'accord? Je ne sais pas, quelqu'un est là ici. Alors. L'étiquette, c'est très courant, très bien. Tu achètes un tefilin, après 3 ans, quelqu'un vient et te dit, non, attends, je te donne l'étiquette. Il n'a pas mis de tefilin pendant 3 ans. Et c'est courant, hélas. Maintenant, s'il y a beaucoup de cheveux ici, d'après certains, on peut dire la majorité des décisionnaires, ce n'est pas valable. Alors, ce n'est pas pour cela que quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui a beaucoup de cheveux, et devrait arrêter de mettre tefilin, qu'il les mette quand même, mais qu'il sache que d'après beaucoup de décisionnaires, qu'il laisse les cheveux derrière, mais là il faut qu'il n'y ait pas trop de cheveux. C'est considéré comme écran. Je dis, vu qu'il y a quand même quelques décisionnaires qui disent que ça va, donc on les met quand même. Maintenant, il y a une chose dont les gens ne sont pas au courant, était assez courante. La couleur ici noire, d'après pas mal de décisionnaires aussi, elle fait écran. Si elle est imbibée dans le filet, regardez-moi, j'ai ici un nouveau filet. Il y a un peu de couleur noire ici, vous voyez. Mais l'imbibée à l'intérieur. Ça va. Mais si c'est maintenant de la couleur qui est dessus, que tu peux gratter et ça s'enlève, vu qu'ici, il n'y a pas de couleur normalement, ça fait ratit, ça fait écran. Donc, il faut prendre avec un petit canif ou quelque chose, après un couteau, l'échelle que tu dois te filer, et gratter ici la couleur pour qu'il n'y ait pas d'écran. OK. Donc, on va faire un petit arrêt maintenant. On fait une petite pause de 5 minutes. On fait 3 quarts d'heure, donc petite pause. On reprend dans 5 minutes. Merci.